Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Catherine Baudouin et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode de La Boîte à Clés. Je suis coach personnel et professionnel et mon objectif dans ce podcast est de vous apporter des sources d'inspiration et un regard nouveau sur vos propres situations. Pour cela, je pars à la rencontre de personnes ayant des histoires de vie inspirantes à nous raconter et je partage avec vous des astuces et outils de développement personnel. L'objectif est de vous permettre d'apprendre à donner le meilleur de vous-même, à révéler votre potentiel et surtout à passer à l'action. Je vous le dis souvent et je me répète, si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de le partager à votre entourage et surtout, et j'insiste là-dessus, le plus important est de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un commentaire, c'est extrêmement important pour moi. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Serge Marquis. Serge est un médecin canadien, très connu en France, notamment pour son livre « On est foutu, on pense trop, comment se libérer de pensouillard le hamster ». J'ai eu la chance de rencontrer Serge dans le cadre d'une conférence qu'il a donnée à Paris, et suite à cela, il a très gentiment accepté, malgré un planning très chargé, de m'accorder un moment privilégié avec lui qu'il me tarde de partager avec vous. Dans cette interview, il nous parle de notre ego, de ses pensées qui nous polluent l'esprit et nous empêchent d'avancer. Il nous donne ses précieux conseils pour les canaliser et arrêter d'être en permanence dans le jugement. Alors sans plus tarder, je vous laisse donc en compagnie de Serge Marquis et je vous retrouve juste après cette interview. Bonjour Serge.
Oui, bonjour, comment vas-tu?
Ben écoute, je vais très bien et toi-même, comment vas-tu?
Ah, ça va bien Catherine. Bon. Je suis en France depuis quelques semaines déjà. Je rencontre des personnes super intéressantes, je vis de très très belles choses, alors je vais très bien.
Bon, super. Tu es à Toulouse, je crois, là, actuellement, c'est ça?
Oui, absolument. Okay. Je suis à Toulouse. Ma fille y habite depuis déjà 7 ans.
Okay.
Et je suis venue aussi m'occuper des petits-enfants,
okay.
Parce que j'ai deux garçons, 3 ans et 6 mois.
Okay.
Alors, j'ai ce bonheur immense de pouvoir... les voir évoluer, c'est absolument extraordinaire tout ce que j'apprends en compagnie évidemment de ma conjointe, là, c'est merveilleux.
Bon, en tout cas, bienvenue sur le podcast, moi je suis vraiment particulièrement contente et très touchée aussi que tu aies accepté mon invitation, c'est vraiment très précieux pour moi que tu m'accordes de ton temps. On le disait, tu es actuellement à Toulouse et moi je suis proche de Paris, hein, ce qui explique que l'on va faire cette interview par téléphone. Si tu le veux bien, je voudrais te présenter en quelques mots. Tu es médecin, tu es canadien, je pense que les auditeurs l'auront entendu de par ton accent. Mais voilà, tu es médecin canadien, tu t'intéresses particulièrement à la santé des organisations, des notions qui tournent autour du stress, de l'épuisement professionnel, de la détresse psychologique dans l'environnement de travail, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Tu as étudié notions d'équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle, la perte de sens, la reconnaissance au travail, etc. Je sais que tu as une entreprise où tu fais tes propres consultations au Canada, dans le domaine de la santé mentale au travail. Et puis, tu es aussi l'auteur de plusieurs livres, des livres à succès, à très grand succès même. Et moi, je pense particulièrement à celui que j'affectionne, qui s'appelle « On est foutu, on pense trop, comment se libérer de pensouillard le hamster ». C'est un livre qui a été publié en plusieurs langues, hein, d'ailleurs, je crois.
Hein. Oui, absolument. Okay. Je crois qu'il répond vraiment à des besoins universels parce qu'il est publié en plusieurs langues. Il y a des gens qui me disaient à certains moments, est-ce qu'en Asie, en Orient, on vit les mêmes problèmes qu'en Occident?
Oui, bien sûr.
Ben, je suis obligé de répondre oui parce que le livre a du succès aussi en Orient. Alors, il répond à des besoins qui sont les mêmes là-bas.
Mmh. Bon, alors justement, on va creuser un peu le sujet. Je sais que tu as un roman aussi plus récent qui s'appelle « Le jour où je me suis aimée pour de vrai ». Qui là pour le coup est un roman à la différence de l'autre et qui se dit vraiment être le roman qui permet de soigner son ego. Et justement le sujet qui nous intéresse et on va y revenir, c'est l'ego. Pour ma part, moi j'ai eu la chance de te rencontrer lors d'une conférence récemment début avril à Paris que tu as donnée et où tu mets en scène formidablement bien, je trouve, ce que tu expliques dans tes livres. Et plus précisément, tu nous racontes et tu nous parles de notre ami Pensouillard. Et justement, j'ai une première question à te poser, si tu veux bien. Pensouillard, ce hamster qui est le personnage principal de ce livre, qui est Pensouillard exactement?
Pensouillard, c'est une métaphore de notre ego, en fait.
Mm-hmm.
Ce petit discours qu'il y a constamment dans notre tête, hein, je suis loin d'être le premier à parler de ça. j'en parle d'une façon différente. Je me suis dit, on a besoin d'avoir des images fortes dans notre okay. vie pour nous aider.
Et quand on a besoin de visualiser et de oui. projeter à quoi il ressemble finalement, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est cette petite voix dans notre tête qui constamment est en train soit de juger les autres ou de nous juger nous-mêmes. Mm-hmm. Ah, je ne suis pas capable, je ne suis pas bon, je n'y arriverai pas. Pourquoi j'ai eu tel professeur dans ma vie? Si j'ai eu un autre professeur qui m'avait compris? Bon, cette voix-là qui tourne sans arrêt ou encore mm-hmm. juger les autres sans arrêt. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Bon, blablabla. Et cette voix, hein, ce discours ne conduit nulle part. C'est ce qui est très important, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais votre hamster dans la tête, là, si on arrive à l'arrêter, on ne pensera plus. Mm-hmm. » Je dis non. Non, c'est très important de faire la distinction entre des pensées utiles, okay. des pensées qui sont constructives, des pensées qui mènent même à des solutions, à des situations difficiles. Okay. Il faut les distinguer, ces pensées-là, de toutes les pensées qui occupent notre attention sans arrêt et qui ne conduisent nulle part, qui okay. ne sont au contraire que créatrices d'inconfort, créatrices de malaise, créatrices de conflits aussi, avec les autres, avec soi-même, etc. Et il y a un pourcentage énorme de pensées qui mobilisent notre attention, qui ne conduisent nulle part, comme le hamster qui court dans sa roue et qui ne va nulle part.
Alors, si justement,
alors,
il nous mène nulle
part. Métaphore de ça.
Si justement, c'est cette petite voix hein, que toi, tu images par un hamster que tu as appelé pensouillard, si justement ce hamster, il nous est pas utile dans la plupart des cas, qu'est-ce qui fait qu'il est là et que ben, parfois, justement, il monte dans cette petite roue, hein, c'est ce que tu expliques dans le livre, et que parfois, il s'accélère et on a du mal à l'arrêter. Si cette petite voix n'est pas utile et qu'elle nous porte préjudice, qu'est-ce qui fait qu'elle est présente, cette petite voix?
Ah, c'est une longue histoire, c'est une histoire de toute l'évolution de l'espèce humaine. Hein.
Okay.
Moi, je dis toujours, quand on retourne dans le passé puis qu'on s'intéresse à l'apparition de l'être humain sur la planète, on découvre que l'être humain, à une certaine époque, là, était un être extrêmement vulnérable, était une proie incroyable pour n'importe quel prédateur. J'ai eu la chance d'aller en Éthiopie un jour et puis j'ai vu les ossements de Lucie, qu'on considérait à l'époque comme étant la mère de l'humanité. Lucie étant le plus vieux squelette humain connu il y a quelques années. On a découvert des plus âgés depuis. Là. Mais Lucie est célèbre, 4 millions d'années, découverte en Éthiopie. Et elle mesurait 1 mètre de haut. Et Lucie n'était pas grande, n'était pas forte. Elle courait pas vite, elle n'avait pas de carapace, elle n'avait pas de crocs avec du venin, elle n'avait pas de liquide qui sentait mauvais. Donc, elle était une proie extraordinaire pour n'importe quel prédateur. Mm-hmm. Lucie a développé son cerveau. Et c'est ce cerveau qui a été capable d'analyser des situations qui pouvaient menacer sa survie. Et lui a permis de construire des abris, de construire des armes, etc., pour se défendre, de faire le feu, etc. Donc, ça, il a fait la naissance de la pensée. C'est ces connexions qui sont apparues dans le cerveau humain, des synapses qui ont permis d'associer des choses qui étaient enregistrées, d'élaborer des concepts qui permettaient la survie de l'espèce humaine. Mais il y aurait eu un dérapage au cours de l'évolution. Ça, c'est l'hypothèse d'un philosophe qui s'appelle Krishnamurti. Et c'est là qu'apparaît notre histoire de hamster. C'est que la pensée peut être utile pour construire un abri, pour me nourrir, trouver de la nourriture. Bon, et ça l'a été pendant des milliers d'années. Elle est utile aussi pour fabriquer des œuvres d'art. Il y a eu des dessins qui ont été faits dans des grottes, etc. Le premier rapport à la beauté, à l'esthétique, des histoires qu'on pouvait raconter. Elle a été aussi utile pour donner du sens à des situations complexes, difficiles. La foudre, au départ, on ne savait pas ce que c'était, les volcans, etc. Alors, il y avait même des sacrifices humains qui étaient faits pour essayer d'arrêter ces choses-là. Mm-hmm. Mais la pensée évoluant, les concepts étant capables le cerveau étant capable d'élaborer des concepts, de faire des associations, on comprenait les phénomènes et on n'avait plus besoin de faire des sacrifices pour apaiser les volcans, etc., parce qu'on savait ce qui se passait. Mm-hmm. Donc ça, ce sont des pensées utiles. Mais en cours de route, le philosophe Krishnamurti nous dit qu'il y aurait eu une forme de dérapage et qu'il aurait donné naissance à l'apparition de l'ego.
Okay.
Et c'est là que ça devient intéressant au niveau du hamster. Moi, aujourd'hui, je compare l'ego à un oignon. Un oignon qui est fait de ce que j'appelle des pelures identitaires.
Les pelures identitaires, oui, tout à fait.
Ouais. Et donc, il est résultat d'un processus qui est dans la tête qui s'appelle le processus d'identification. Mm-hmm. Et d'après Christian Verti, la première pelure identitaire qui serait apparue dans le cerveau serait en rapport avec le concept de territoire. On se serait identifié à son territoire. Au départ, un concept intéressant était « j'ai besoin d'un territoire pour survivre, parce que sur ce territoire, il y a de la nourriture, il y a de quoi boire, etc. » Et est apparu l'autre concept, je dois protéger mon territoire. Mais il y aurait eu un deuxième concept qui serait apparu, qui aurait été le suivant. Non seulement j'ai besoin d'un territoire pour survivre, mais ce territoire me distingue, me rend différent des personnes qui n'ont pas de territoire.
Okay.
Et alors serait apparu le concept, je suis mon territoire, je suis ce que je possède.
Okay.
Et ça, ça devient bien intéressant parce que ça fonctionne encore aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
On s'identifie à des objets qu'on possède. D'ailleurs, oui. Les gens qui veulent nous vendre quelque chose activent le processus d'identification en nous disant « ça, mais c'est tout à fait vous ». Alors, on est devant la glace en train d'essayer un veston et, ou une veste,
oui.
et là, la personne nous dit « mais c'est tout à fait vous, ça
oui. ».
Là, le processus d'identification s'amorce. Hein. Et là, ça donne « ah, vous trouvez ». Et la personne dit ah, « bien sûr, c'est votre palette de couleurs, c'est votre style ». Et là, elle ajoute cette petite phrase extraordinaire. On n'en a qu'un à votre taille. Donc là, le processus d'identification entre en jeu. Ce veston, cette veste va me distinguer. On s'identifie au veston ou à la veste. Le problème, c'est que comme on a créé cette pelure identitaire, arrive un problème majeur. Tout ce qui est commentaire à propos de la veste n'est plus perçu comme un commentaire à propos de la veste, mais est perçu comme un commentaire à propos de ce que nous sommes.
De soi-même.
Et voilà, voilà. Alors, le hamster et cette espèce de chien de garde de nos pelures identitaires, je l'appelle comme ça, est toujours en train de surveiller ce qui pourrait être menaçant pour ce à quoi on s'identifie. Alors, on s'identifie à ce qu'on possède, on peut s'identifier à sa marque de voiture, on peut s'identifier au stylo avec lequel on écrit, mais on peut s'identifier aussi à ce que l'on fait, à ce que l'on fabrique. À notre époque, c'est extraordinaire parce que plus que jamais, beaucoup de personnes s'identifient à leur travail.
Oui.
Alors, tout ce qui menace ce qu'elles font est perçu non pas comme une menace à ce qu'elles font, mais à ce qu'elles sont.
Une menace et vraiment identitaire.
Et voilà.
Ouais,
voilà.
Okay.
Alors, et ça, c'est terrible parce qu'à chaque seconde, dans une journée, si je travaille sur un projet, si je suis en train d'écrire un document, etc., la moindre critique, le moindre commentaire négatif peut être perçu comme une menace à mon être et non pas au document que je suis en train d'écrire ou au projet sur lequel je suis en train de travailler.
Okay.
Et c'est là que l'hamster commence à émettre un paquet de jugements sur ceux qui ont émis une critique ou des jugements sur soi-même. « Ah, ben je suis pas assez bon, je suis pas à ma place, je suis pas compétent, j'ai pas ce qu'il faut, etc. » Et le grand problème, c'est que le cerveau ne fait plus la différence à notre époque entre la menace à la survie et la menace à notre ego, donc à toutes les pelures identitaires que nous avons fabriquées.
Okay.
Il déclenche la même réaction de stress dans les deux cas. La même peur qui donne le goût de fuir, ou la même agressivité, hostilité, qui donne le goût de se battre.
Okay.
Parce qu'à la base, la réaction de stress, c'est ça. C'est une réaction qui permet la survie à travers la lutte.
Parce que tu es en danger, tu es dans une situation de danger, c'est ça?
Exact.
Pour te un danger de vie ou de mort, finalement.
Ah, oui, tout le temps. Il y a eu une époque où c'était normal, quand on marchait dans la plaine, qu'il y avait des prédateurs
Bien
autour.
Bien sûr.
On entendait le rugissement d'un fauve, ben, le cerveau déclenchait la réaction de stress immédiatement pour nous mettre en mode lutte ou fuite pour assurer notre survie.
Notre sécurité. Et aujourd'hui, on confond les deux, c'est-à-dire que par réflexe, on va avoir ce même type de réaction et de comportement, c'est ça? Alors que finalement, il n'y a pas lieu d'être.
Exactement. C'est en plein ça, Catherine. Il y a des situations où on est en train de parler. Et devant nous, quelqu'un, dans sa physionomie, il n'a même pas dit un mot, la personne n'a pas dit un mot, dans sa physionomie, exprime un désaccord. Immédiatement, le cerveau perçoit cette physionomie comme une attaque aux propos qu'on est en train d'émettre.
Mm-hmm.
Le problème, c'est qu'on s'identifie aussi à ses opinions.
Okay.
On s'identifie à ses idées, on s'identifie à ses croyances. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à nos idées, à nos opinions, à nos croyances, le cerveau ne le perçoit plus comme une opposition à l'idée, mais une opposition à notre être, parce qu'on s'est identifié à l'opinion.
Oui.
Okay. On s'y est attaché. Alors, à ce moment-là, le cerveau déclenche la réaction de lutte biologique. Là. Les hormones circulent, l'adrénaline, noradrénaline, cortisol, les muscles se contractent, parce que quelqu'un a émis un commentaire qui peut être perçu comme une critique d'une opinion.
OK.
Et ça, c'est terrible.
OK. Et du coup, alors, par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit et que j'ai envie de te poser. Ce que tu expliques, là, c'est que bien souvent, de par l'évolution de l'être humain et la déviance, aujourd'hui, on a tendance à s'identifier au travers de nos pelures identitaires. Ce que tu appelles ces pelures identitaires, c'est-à-dire je suis ce que je possède, je suis ce que je fais, ce que je sais, ce que je pense, ce que je dis, mais tout ça ne sont que des pelures identitaires qui cachent finalement le vrai qui nous sommes en réalité. Et du coup, quand on se sent en attaque par rapport à ces pelures, on est en mode réaction et on se met sur la défensive, en gros, hein, si on synthétise. Et mes deux questions, c'est, alors dans ce cas-là, comment peut-on faire aujourd'hui pour savoir réellement qui on est en dessous de ces pelures identitaires? Et comment on peut faire, en tout cas, quel conseil tu donnes, toi, pour justement arrêter ces pensées qui sont très polluantes, qui ne nous sont pas utiles et vraiment cet égo pensouillard qui se met en état de marche, en fait.
Les deux questions sont très liées l'une à l'autre.
Okay.
La première, se connaître. Hein? Socrate disait « connais-toi toi-même ». Ben, oui. Je pense qu'elle a très bien saisi ça. Tout le travail des grands sages, là, ceux qu'on a, il y a même des grands sages autour desquels il y a eu des religions qui ont été construites, mais quand on retourne à leur discours, c'est pas un discours qui, à la base, était un discours pour concevoir une religion, c'est un discours qui était lié à la connaissance de l'être humain, à la connaissance de soi-même, à la connaissance de l'autre, à la relation qu'on pouvait avoir. Alors, c'est très intéressant parce que « connais-toi toi-même », c'est exactement dans cette phrase-là qu'on va trouver la solution à l'apaisement du artère. Ce que je veux dire par là, on n'est aucune de nos pelures identitaires.
Okay.
Nous ne sommes pas ce à quoi nous nous identifions. Je ne suis pas mon opinion. Je ne suis pas mon stylo. Je ne suis pas ma voiture.
Je ne suis pas ma maison. Je ne suis pas mon travail. Oui, OK.
Exact. Et je peux changer d'opinion dans la vie. Je ne disparais pas. Heureusement, d'ailleurs. C'est merveilleux de pouvoir changer d'opinion, de pouvoir changer de croyance sans disparaître. Je peux changer de travail. Et ça arrive de plus en plus souvent au cours d'une vie, maintenant, que les gens changent de travail.
Bien sûr.
C'est toujours parce que je change de travail que je disparais.
Ouais, okay.
C'est donc la preuve que je ne suis pas mon travail. Donc, que suis-je? La question est, que suis-je? Connais-toi toi-même, c'est la réponse, ça va dans cette direction-là.
Ouais.
Ça va dans la même. Alors, que suis-je? Et ça, c'est merveilleux parce qu'il y a une psychologue française que je cite partout depuis plusieurs années, qui s'appelle Marie de Hennezel.
Okay.
Qui a travaillé en soins de fin de vie, qui a écrit plusieurs livres, et qui a dit un jour dans une conférence à Montréal, et cette phrase m'a profondément marqué, elle a dit « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais.
Okay. »
C'est une phrase extraordinaire. Toutes les pelures identitaires vieillissent, changent, se transforment. Alors, qu'est-ce qui en moi ne vieillit jamais, qui reste intact toute ma vie?
Oui.
Eh bien, un, c'est la capacité que j'ai, que nous avons tous et toutes, d'être présents. Ça ne vieillit jamais. La capacité de faire en sorte que notre attention soit complètement là où nous sommes, au moment où nous y sommes.
Okay.
Cette capacité d'observer nos pensées, cette capacité d'observer les sensations qu'on éprouve, cette capacité d'être attentif aux personnes qui nous entourent, etc., etc. Cette capacité d'être présent. Et là, il y a un concept fort important qui doit être mis de l'avant à cet instant même, c'est que notre attention, neurologiquement, ne peut pas être à deux places en même temps.
On croit qu'on peut le faire, mais en réalité, c'est pas possible.
C'est une illusion.
Okay.
C'est une illusion. Si quelqu'un me parle et que mon attention s'en va dans ma tête sur un commentaire à propos de ce que la personne est en train de me dire, je ne peux plus entendre ce que la personne est en train de me dire.
Okay.
Parce que mon attention est sur le jugement que je porte au sujet de ce qu'elle est en train de me dire. J'espère que je suis clair quand je dis ça.
Ouais.
Et ça peut varier d'une seconde à l'autre. Quelqu'un me parle et pour une seconde, mon attention n'est plus sur ses paroles parce qu'elle est sur le jugement que je suis en train de porter sur ses paroles. Ben, j'ai perdu la phrase qu'elle était en train de me dire. D'ailleurs, il faut parfois que je la fasse répéter.
Mm-hmm.
Parce que, pour une fraction de seconde, j'étais plus avec elle. Donc, comme l'attention ne peut pas être à deux places en même temps, si elle est sur le discours du hamster, qui lui est en train de surveiller toutes les menaces aux pelures identitaires à travers des jugements sur l'autre ou sur soi-même, ben, mon attention n'est plus dans le présent.
Okay.
Ça, c'est super important parce que c'est ça, là-dessus aussi, je suis loin d'être le premier à parler de ça. Il y a des tonnes de personnes qui parlent de ça.
Mm-hmm.
Mais encore là, je profite de l'entrevue que j'ai avec toi, Catherine, mm-hmm. pour préciser une chose. C'est que je trouve malheureusement, on galvaude le concept du moment présent à notre époque. On l'associe beaucoup à l'hédonisme, au plaisir.
Oui.
Pour beaucoup de personnes, être dans le moment présent, c'est être dans le plaisir.
Oui.
C'est rien à voir. Être dans le moment présent, j'ai dit à des jeunes que c'est écouter le prof en classe. C'est ça, être dans le moment présent.
Okay.
Être dans le moment présent, c'est accueillir la tristesse qui m'envahit parce que je perds un être cher. Et c'est de l'observer, cette tristesse.
OK, c'est pas de chercher à la fuir, mais c'est vraiment de lui laisser la possibilité d'exister et de la vivre. De la vivre vraiment.
Oui. Et d'écouter ce qu'elle a à m'apprendre.
Okay.
Ce qu'elle est en train de vouloir me dire, cette tristesse-là, d'accueillir ça, de me mettre à l'écoute de cette tristesse-là. C'est ça, être dans le moment présent. C'est aussi savourer, bien sûr, la joie qui me remplit. C'est d'être complètement à l'écoute de la personne qui me parle pendant qu'elle me parle. C'est ça, être dans le moment présent. Et ce concept-là a été galvaudé au point qu'il y a des compagnies qui vendent leur bière à travers le concept du moment présent. Buvez notre bière, vous allez être dans le moment présent.
OK.
Alors ça, c'est très, très, très important parce que se connaître, c'est découvrir toutes les capacités qui en nous ne vieillissent pas et qui sont reliées à la capacité d'être présent.
OK.
La capacité d'être aimé, c'est une capacité qui ne vieillit jamais.
Oui.
Et qui est bien sûr liée à la capacité d'être présent parce que je ne pourrai jamais aimer si je ne suis pas présent. Ça ne va pas ensemble, ça.
Mm-hmm.
Les gens qui se targuent d'aimer alors qu'ils ne sont pas présents, parlent de quelque chose que je ne comprends pas. Donc, la capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, bien sûr, c'est la capacité de s'émerveiller. Il y a des gens, en soins de fin de vie,
mm-hmm.
qui s'émerveillent encore devant les personnes qui les entourent.
Mm-hmm.
Et c'est une dame qui me racontait qu'elle avait accouché alors que sa mère venait d'entrer aux soins palliatifs. Elle avait accouché de jumeaux. Puis elle est allée lui montrer les jumeaux et elle nous a raconté l'émerveillement de sa mère. C'était magnifique de l'entendre.
Mm-hmm.
Et elle parlait de la capacité de s'émerveiller qui était intacte chez sa mère à quelques heures de son départ.
Okay.
Donc ça ne vieillit jamais. L'autre capacité qui ne vieillit jamais, il y en a plusieurs. Il y a la capacité d'apprendre, ça ne vieillit jamais. La capacité de transmettre, ça ne vieillit jamais. La capacité de savourer, ça ne vieillit jamais. La capacité de créer, ça ne vieillit jamais. Et ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre à observer l'hamster, de développer ce que j'appelle la vigilance.
Mm-hmm.
Encore là, je ne suis pas le seul à appeler ça comme ça. Là, qui nous permet d'observer où est notre attention. Est-ce que notre attention est accaparée par le hamster?
OK. C'est-à-dire par le jugement qu'on va porter sur soi, sur l'autre, ou sur le passé, ou sur le futur, par exemple?
Exactement.
Okay.
Tout à fait. Est-ce que mon attention est là, ou si elle est sur ce qui en moi ne vieillit jamais?
OK.
Et ça, c'est super important parce qu'il y a un truc très, très simple, mais très utile pour moi, en tout cas dans ma vie. Mon hamster, il part souvent courir.
Mm-hmm.
Il est en train de revoir la journée, par exemple, que j'ai eue.
Mm-hmm.
Et là, il est en train de porter des jugements sur des gestes que j'ai posés, des paroles que j'ai prononcées. Ah, oh, si j'avais dit ça autrement. Il n'en tire pas d'apprentissage. Si je vais dans le passé, si mon attention va dans le passé pour tirer un apprentissage, c'est merveilleux.
Okay.
Mais si mon attention on va dans le passé uniquement pour porter des jugements.
Et pour m'autoflageller, voilà, m'autoflageller et pas me permettre d'avancer, ok?
Exactement. Si ça va uniquement dans le passé pour m'autoflageller, c'est inutile. Je me fais souffrir pour rien. Alors, quand je commence à m'autoflageller, parce que la vigilance, elle, cette capacité qu'on a d'observer où est notre attention, me permet de me rendre compte que je suis en train de me flageller. Okay. Comme mon hamster commence à courir, bon, ça y est, pensouillard commence à courir, je suis en train de m'autoflageller, je peux le faire dans la bienveillance, là, à mon égard. OK, mon hamster a commencé à courir, c'est pas grave. Et là, il y a une question qui m'est très utile, moi, c'est est-ce que ma capacité d'être présent est menacée? Okay. Est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Est-ce que ma capacité de m'émerveiller est menacée?
Okay. Qu'est-ce qui fait ton identité, finalement? Est-ce que les capacités qui font qui je suis vraiment sont menacées?
Exact.
OK. Est-ce que, en gros, je suis en danger de vie ou de mort?
Exact. Exact.
Est-ce que je vais perdre mon identité à cause de ça, de cet événement qui s'est passé?
Tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a en nous cette intelligence, je l'appellerais comme ça, là, qui nous permet d'observer qu'on a quitté l'intelligence. L'intelligence d'observer qu'on n'est plus dans l'intelligence. Parce que quand on s'autoflagelle, on n'est plus dans quelque chose d'intelligent. On est dans quelque chose de nuisible. Alors, dès qu'on s'en rend compte, de ramener l'attention sur ce qui en nous ne vieillit jamais, de ramener l'attention dans le présent avec bienveillance, de prendre conscience que tout ce qui ne vieillit jamais n'est pas menacé, ben ça apaise l'hamster.
Okay.
Parce que l'hamster, lui, il essaie de protéger les pelures identitaires. Et effectivement, les pelures identitaires peuvent être critiquées, peuvent être blâmées. Le vêtement que je porte peut ne pas plaire à quelqu'un. La phrase que j'ai prononcée ou l'opinion que j'ai peut ne pas plaire à quelqu'un. Alors, toutes ces pelures identitaires peuvent faire l'objet de critiques, de jugements négatifs, etc.
OK.
Et à chaque fois.
En gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, c'est ça l'élément déclencheur qui peut permettre finalement à Pensouillard d'arrêter de courir, comme tu le dis, et de calmer notre ego. C'est déjà la première étape, qui est certainement une étape très difficile, c'est de réussir à prendre conscience que justement, ce sont nos pensées qui se sont mises en marche, que c'est Pensouillard qui s'est mis à courir le plus vite qu'il peut. C'est vraiment cette prise de conscience de ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est ça?
Tout à fait. J'aime beaucoup ça. Le mot, Christian Lottier utilisait beaucoup le mot « observer ».
Okay.
C'est cette observation de cette activité mentale qui est symbolisée par le hamster, qui est de l'ordre, et ça, il y a Richard Moss, qui est un grand médecin américain, qui a beaucoup travaillé aussi avec la méditation, etc., et qui disait que la majeure partie de nos pensées est réparti entre quatre cadrans.
Oui.
Et c'est super intéressant parce que tu les as nommés il y a quelques instants même,
quatre cadrans. Effectivement, je les ai cités tout à l'heure parce que je sais que c'est des choses dont tu as parlé lors de la conférence.
C'est ça.
J'ai vu, hein, le jugement des autres, le jugement de soi-même, le jugement sur le passé et sur le futur. Donc je sais que c'est des notions qui sont importantes pour toi.
Exactement. Ce sont les quatre cadrans, Richard Moss. C'est quand on entre dans la vigilance et qu'on observe nos pensées, on se rend compte qu'effectivement, elles sont soit dans le passé, soit dans le futur, dans le jugement sur les autres ou dans le jugement sur soi-même.
Mm-hmm.
La majeure partie du temps. Critique, blâme, bon, blablabla. On a du génie pour fabriquer ça.
Mm-hmm.
Et que l'attention à ce moment-là n'est pas dans le présent, elle n'est pas dans la capacité de s'émerveiller, elle n'est pas dans la créativité, elle n'est pas dans le fait de pouvoir savourer, etc., etc.
Okay.
Et tout le jeu, le grand défi qui nous attend, c'est de développer cette vigilance qui nous permet de ramener notre attention dans le présent, donc de... J'ai toujours débranché la roue du hamster.
Okay. Et du coup, si tu veux bien, moi j'aimerais bien te, par rapport à ce que tu nous dis là et les quatre cadrans, j'aimerais bien prendre quelques exemples et que tu m'expliques ton point de vue sur le sujet. Par exemple, le jugement des autres. Alors, toi qui es très familier avec l'environnement de travail, le monde du travail, si je prends un exemple par rapport au jugement des autres. Par exemple, je suis un manager et j'ai certains collaborateurs de mon équipe qui ne répondent pas à mes attentes. Ils ne font pas ce que j'attends d'eux et du coup, je suis dans le jugement de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils ne font pas d'ailleurs. Et en tout cas, je considère qu'ils ne sont pas compétents. Alors là, typiquement, sur ce genre de cas, quelle est ta vision des choses? Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu recommandes?
Bon, d'abord, distinguer le jugement sur l'être, le jugement sur l'acte. Ça, c'est la première chose.
Oui.
Parce qu'effectivement, si il n'est pas compétent, moi, ça ne me dit rien, ça. Qu'a-t-il fait qui ne correspond pas à vos attentes ou que n'a-t-il pas fait qui fait en sorte que vos attentes ne sont pas satisfaites?
Mm-hmm.
Parce qu'à partir de ce moment-là, ce que je vais essayer de trouver ce qu'il pourrait faire différemment, ce collaborateur,
okay,
pour que mes attentes soient satisfaites. Alors là, il faut que j'établisse un dialogue à propos de mes attentes pour, okay, les rendre très claires et à propos de ce dont ce collaborateur aurait besoin pour y répondre. Et là, je peux établir un plan de travail avec lui.
Okay.
Ou lequel? Écoutez, voici mes attentes. Je voudrais savoir si elles sont claires. Premièrement, pourriez-vous me les reformuler pour que je sois bien certain que vous les avez saisies, comprises, etc. Là, je ne suis pas en jugement sur l'être. Là. Je ne fais qu'exprimer mes attentes et vérifier si l'autre les a bien saisies. On est dans le monde de la communication.
Okay.
Après, si la personne démontre qu'elle a bien saisi mes attentes, là, il faut que je sache ce dont elle a besoin pour pouvoir y répondre. Est-ce qu'elle a besoin de plus d'informations? Est-ce qu'elle a besoin de plus de formation? Est-ce qu'elle a besoin d'une personne qui pourrait l'aider aussi en cours de route,
mm-hmm,
etc.
Mm-hmm.
Et après, j'établis un plan de travail pour vérifier si dans un mois, deux semaines, peu importe, ce qui a été mis en place fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ben peut-être que la personne n'est pas à sa place. Ça aussi, c'est
autre chose
importante à vérifier. Parce que parfois, on peut rendre service à quelqu'un d'une façon exceptionnelle en découvrant avec elle qu'elle n'est pas à sa place et en trouvant l'endroit où ses compétences pourraient être le mieux utilisées, ses talents, ses capacités, son potentiel.
Okay. Et là, du coup, et d'où l'intérêt par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de faire prendre conscience à la personne. Je reviens sur l'idée des pelures identitaires, que ce n'est pas parce qu'elle perd son emploi ou qu'elle change d'emploi qu'elle va disparaître, comme tu le dis à juste titre. Hein, c'est juste être au bon endroit, au bon moment.
Bien sûr, au contraire, même parce que si elle est dans un emploi qui ne convient pas à ses talents, qu'elle ne peut pas les développer, ses compétences, son potentiel, ses ressources, elle va souffrir. Parce qu'une des plus grandes joies qu'un être humain puisse vivre au cours de sa vie, c'est de pouvoir sentir que cet être humain-là développe son potentiel, ses capacités, ses ressources. Alors, si la personne s'acharne à vouloir prouver à tout le monde qu'elle est capable de faire quelque chose, uniquement parce qu'elle est encore dans une pelure identitaire d'identification à ce qu'elle fait,
mm-hmm,
et qu'elle s'acharne à vouloir prouver à tout le monde pour éviter les jugements négatifs qu'elle est capable de faire, alors que ça ne correspond pas à ses talents, ben, elle va souffrir. Donc, une chose intéressante, c'est de découvrir qu'on ne disparaît pas, et qu'on peut au contraire encore plus apparaître,
mm-hmm,
et là, je ne parle pas de l'ego, mais je parle du potentiel, si on est dans un endroit qui correspond à ses talents. Mais ça aussi, c'est pas facile à faire parce qu'il y a des gens qui ont des rêves auxquels ils se sont identifiés et qui ne correspondent malheureusement pas à leurs talents et à leur potentiel.
Okay.
D'ailleurs, j'ai entendu un conseiller en orientation au Québec sur une chose extraordinaire à des parents un jour. Il a dit, au lieu de découvrir les rêves de vos enfants, découvrez leurs talents. Permettez-leur de développer leurs talents. Et ils vont finir par en réaliser beaucoup de rêves.
Okay.
Alors ça, je trouvais ça très intéressant. Évidemment, il faut que les parents soient aussi conscients du piège de leur propre ego et de d'être prudents pour ne pas vivre leur propre rêve à travers la réalisation ou le développement des talents de leur enfant.
Mm-hmm.
Ça, j'espère que je suis clair, parce que les parents, dans le monde du sport, ils voient les talents de l'enfant se développer, mais là, ils se mettent à mettre énormément de pression parce qu'ils sont plus conscients que c'est leur rêve à eux qu'ils veulent réaliser.
Oui, bien sûr.
Et non pas simplement permettre au talent de l'enfant de se développer. Point à la ligne.
Mmh, OK. Et dans l'environnement, dans un environnement professionnel, dans un environnement de travail, par rapport à tout ça, toi, quels sont les principaux conseils que tu donnes et que tu recommandes aux personnes qui sont en souffrance?
Bon, la chose qu'on fait d'abord, c'est d'essayer de voir si le travail a encore un sens pour la personne. Ça, c'est très important. L'être humain, on en a parlé au début, a toujours été en quête de sens. A voulu comprendre les volcans, qu'est-ce qui faisait qu'un volcan était un volcan, qu'est-ce qui faisait que le tonnerre, la foudre était le tonnerre et la foudre. Bon, l'être humain est constamment en quête de sens, et quand il n'y a pas de sens, il a peur. C'est normal, les êtres humains ont eu peur de la foudre, ont eu peur des volcans, bon, etc. Et quand tout ça a eu du sens, la peur a disparu. Ben, ou encore, elle était encore présente, mais... d'une façon à amener la prudence, mais on comprenait le mécanisme. Alors, la peur n'était pas présente à cause du fait qu'on ne comprenait pas.
Mm-hmm.
Donc, l'être humain a toujours été en quête de sens, puis pour le travail, c'est pareil. L'être humain a besoin d'avoir un travail qui a un sens à ses yeux. Et moi, les êtres en souffrance que j'ai vus dans mon cabinet depuis 30 ans, parce que j'en soigne depuis 30 ans, des gens qui ne fonctionnent plus au travail, qui ont perdu la flamme, qui ont perdu l'intérêt, la passion, la démotivation, qui sont démotivés, pardon, etc., eh bien, elles arrivent toujours avec deux phrases. Je ne sais plus qui je suis. Là, on est dans les pelures identitaires.
Okay.
Elles étaient tellement identifiées à leur travail que, parce qu'elles vivent les difficultés, elles ne savent plus qui elles sont. Donc, c'est une phrase merveilleuse, parce que c'est une phrase qui va leur permettre de découvrir qui elles sont vraiment. Non pas leur travail, mais tout ce qui en elles ne vieillit jamais. Et la deuxième phrase qu'elle prononce, c'est « je ne sais plus où je vais ». Là, on est dans une dynamique de sens. Il n'y a plus de direction dans leur vie.
« Je ne sais plus où je vais ». OK, d'accord.
Oui, « je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais ». Donc, il y a la question identitaire et la question du sens traité à travers la direction, le projet qui permet à la créativité de s'exprimer,
okay.
qui permet au potentiel de se développer, etc., etc.
Et du coup, comment tu travailles ces deux questions-là, alors, avec ces personnes-là? Parce que j'imagine que l'idée pour sortir de cette situation-là, c'est de trouver les réponses à ces questions-là, finalement. Qui je suis et où
tout
je
à
vais.
Fait. Alors,
OK, comment tu fais pour travailler ça?
Ben, on explore ça ensemble. Évidemment, je pose beaucoup de questions en tout temps délicatement. C'est quand une personne arrive avec une peur de ne plus exister, parce que si elle était complètement identifiée à son travail, je suis ce que je fais, et que ça ne fonctionne plus dans le travail, c'est je ne suis plus rien. Hein? Alors donc, c'est délicat, parce que la personne va vivre dans tout son corps, dans tout son être, le sentiment de ne plus exister. C'est une grande blessure que les gens vivent quand ils sont brûlés, épuisés, là, sont déconstruits, il y a comme des fractures dans leur être,
mm-hmm.
alors qu'elles ne sont pas vraiment dans l'être. Je me reprends, parce qu'elles ont l'impression que c'est dans l'être, mais ce n'est pas dans l'être, c'est dans l'ego que sont les fractures.
Mm-hmm.
Et c'est une chose intéressante de découvrir avec elles. Alors moi, je les invite à revoir doucement comment ils sont arrivés à ça, qu'est-ce qui a changé dans leur environnement de travail. Qu'est-ce qu'elles cherchaient quand elles avaient choisi ce travail? Qu'est-ce qui les avait amenés? Est-ce qu'il y avait une passion qui les habitait? Est-ce qu'il y avait une flamme? Je vais donner un exemple très simple. Dans le monde de la santé, qui est le monde que je connais le mieux, j'ai soigné des personnes qui, au départ, étaient allumées, j'aime bien faire ce mot, allumées par la passion de soigner, de tenir des mains, d'écouter des personnes souffrantes, et puis tout à coup, dans un contexte où la technique a pris beaucoup de place, où la performance a pris beaucoup de place, n'ont plus l'impression d'avoir le temps de tenir une main, elles ne voient plus le sens de leur travail.
Okay.
Alors ça, c'est très important parce qu'il y a une dimension importante qui définit le sens du travail. Et ça, je la dois à cette dimension-là à une femme qui s'appelle Estelle Morin, qui a beaucoup travaillé là-dessus au Québec, qui est la cohérence entre certaines valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose. Si une de mes valeurs, c'est le bien-être de l'être humain que je soigne, et que ça passe à travers la connexion que j'établis avec lui, et que je n'ai plus le sentiment d'avoir la possibilité d'établir cette connexion, il n'y a plus de cohérence entre ma valeur et les gestes que je pose. Alors là, j'entre en perte de sens. Okay. Donc là, il faut aider la personne, l'accompagner dans la découverte qu'elle a, à propos de ce qu'on disait tout à l'heure, là, de ce qu'elle est vraiment, de ce qui en elle ne vieillit jamais. Okay. Entre autres, ce que ça signifierait d'être à nouveau présente à travers certains gestes qu'elle pose, parce que malheureusement, elle a été piégée en cours de route par son hamster, qui lui a fait perdre de vue la capacité qu'elle avait d'être présente, parce que l'hamster a fini à porter un tas de jugements sur la place qu'occupe la technique, etc., et qu'à cause de ça, elle a oublié la possibilité d'être présente, et c'est là-dessus qu'on travaille ensemble.
OK.
Ça, c'est au niveau de l'individu. Mais il y a tout un travail à faire au niveau organisationnel.
Bien sûr.
Parce qu'on vit dans une société de la performance. Et malheureusement, il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Le seul sens qui justifie ces décisions-là est un sens économique. Mm-hmm. Et c'est terrible parce qu'on met de côté, on balaie de la main tout ce qui permet à un être humain de trouver un sens complètement à l'extérieur de la dimension essentiellement économique. Mm-hmm. Évidemment, on doit en tenir compte de la
section. Bien sûr, ça reste une réalité, il faut en tenir compte, ouais. Tout à fait.
Il faut en tenir compte, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'est l'être humain dans son essence. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres de relation, des êtres de connexion. Notre capacité à être présent, là, elle se manifeste à travers la connexion qu'on a à l'autre, le dialogue qu'on établit avec l'autre. Et on découvre qui on est à travers l'autre aussi. Cet autre qui nous permet de dire cette phrase magnifique que j'aime tellement entendre et que j'aime prononcer, qui est « je n'avais jamais vu ça comme ça ». Dès que je prononce cette phrase, je viens de changer.
Ouais.
Et toute notre vie dans le dialogue, on est amené à pouvoir dire « je n'avais jamais vu ça comme ça ». Et une personne qui soigne, dans le contexte d'un centre hospitalier ou peu importe, en contact avec l'autre, va pouvoir elle-même dire « je n'avais jamais vu ça comme ça » et va permettre à l'autre aussi de pouvoir dire « je n'avais jamais vu ça comme ça ». Et ça donne un sens à son travail. Et c'est ça qu'on oublie quand on est dans une société essentiellement axée sur une performance mesurée par profits, par des...
Par la dimension économique, finalement.
La dimension économique, etc. Okay. Exactement. Alors, et ça, c'est vrai parce que présentement, on dérive. On s'éloigne de l'essence même de l'être humain. On est piégé par des systèmes qu'on a construits qui devaient être à notre service. Et quelqu'un a déjà dit, je ne me souviens pas qui, là, mais on est devenu au service des systèmes qu'on a construits. Mm-hmm. Ils ne sont plus notre service, c'est nous qui les servons, ces systèmes. Les systèmes économiques, entre autres, auxquels on ne comprend à peu près à rien. Le commun des mortels, comme moi, là, les systèmes économiques dans lesquels on fonctionne, là, j'y comprends à peu près à rien. Mais j'essaie de m'adapter et de vivre. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est qu'ils ne correspondent pas à ce que je suis fondamentalement comme être de relation. Comme être relié aux autres, relié à la nature, relié à tout ce que je suis dans mon essence profonde, là, tout ce qui est vivant en moi.
OK. Il y a une question que j'avais envie de te poser avant qu'on termine ensemble. Est-ce que tu aurais une expérience que toi tu as vécue ou une anecdote à nous raconter d'une situation que toi-même tu as vécue et c'était vraiment l'exemple même, l'exemple type de ton pensouillard, de ton hamster qui s'est mis en route et que tu en as pris conscience et qui a été riche d'enseignements pour toi?
Il y en a à chaque jour une quantité innombrable. Non, mais c'est vrai. Mais il y en a une anecdote qui est très simple que je raconte souvent, qui implique ma conjointe et qui fait la démonstration de ce qu'un entraînement, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais de ce qu'un entraînement peut permettre de développer comme vigilance. Mm-hmm. L'entraînement, il est simple au fond. Hein. Le mot qui est souvent utilisé, c'est le mot méditation.
Oui.
Mais, et puis ce mot-là aussi a été galvaudé. Mm-hmm. Je trouve. Je trouve que Richard Moss nous ramène le mot méditation dans quelque chose d'accessible. Parce que lui conseille à ses patients de méditer. Puis il y a beaucoup de patients qui lui disent, ben, j'ai pas le temps. Et il leur répond, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite.
Okay.
Et je trouve cette phrase magnifique parce que c'est très vrai. Quand j'écoute une autre personne, je peux me rendre compte que j'ai cessé de l'écouter. Je peux me rendre compte que pour une fraction de seconde, j'en parlais tout à l'heure, mon attention est ailleurs. Elle est dans la question qui m'habite. Elle est dans le jugement que je porte sur ce que la personne a dit, bon, etc. Et je peux ramener mon attention sur ce que l'autre personne est en train de me dire. Donc, j'ai observé là où était mon attention et je l'ai ramené dans le présent.
Okay.
Et la méditation, ça sert à ça. Et l'entraînement, on peut s'entraîner toute la journée comme ça. Donc, moi, je le fais constamment. Ça m'habite depuis des années, ça. Parce que je ne veux pas passer à côté de ma vie. Ça, c'est fondamental. Et pour ne pas passer à côté de sa vie, c'est important de savoir où est notre attention.
Mm-hmm.
Si elle n'est pas dans le présent, on est en train de passer à côté de notre vie. Le hamster nous fait passer à côté de notre vie. Ça, c'est bien, bien important de s'en rendre compte.
Okay.
Alors, je reviens à l'exemple. Je suis en train de laver la vaisselle. Banal, hein? Simple. Je verse une goutte de savon dans une assiette. Ma conjointe arrive du travail et elle me dit, « T'as mis beaucoup trop de savon. » Ben, mon hamster part à courir. Parce qu'il entend un jugement à propos d'un geste que j'ai posé. Et l'ego voulant toujours être parfait, etc., ils vont même s'identifier au savoir qu'on a sur la quantité de savon qu'on a à mettre sur une assiette. Alors, donc, j'entends ce jugement-là comme une attaque à propos de mon ego, de mon être. Pardon, pas de mon... Je mêle les deux, là, parce que c'est à la fois une attaque sur la pelure identitaire, donc sur l'ego, mais c'est une attaque qui est perçue comme une attaque à mon être.
Mm-hmm.
Et là, mon cerveau, lui, réagit en mode lutte et en mode fuite. Et là, ça commence dans ma tête, l'hamster, là, tout de suite. Là. Qu'est-ce qu'elle en sait, elle, la quantité de savon qu'il faut mettre? Est-ce qu'elle a un doctorat en savon? Puis bon, etc., etc. Ça, c'est les jugements qu'il y a dans ma tête. Mais elle ne les entend pas, là. Donc, mon corps, il se contracte pendant ce temps-là. Là. Comme s'il était en face d'un fauve, là. Les muscles, la mâchoire, tout ça, là. Il est en mode lutte ou en mode fuite. Et le mode lutte, ça pourrait être de l'exprimer verbalement. De dire qu'est-ce que tu en sais, de la quantité de savon qu'on doit mettre, est-ce que tu as un doctorat en savon. Bon, ça devient une attaque. L'ego de l'autre se sent menacé à son tour et là, on entre dans un conflit. Ça peut durer plusieurs heures.
Okay.
La fuite pourrait être, ben, fais-la toi-même, lave-la toi-même, la vaisselle, tu sais, j'ai pas que ça à faire. Ça, c'est la fuite. Ce qui règle rien non plus. Donc, l'entraînement permet d'observer ce discours dans ma tête et me permet de me rendre compte que mon corps me contracte, parce que c'est ça être dans le moment, parce que c'est ça être dans le moment présent. J'observe à la fois les pensées, j'observe la contraction du corps, tout ça. Ça se fait rapidement, ça, en une fraction de seconde. Et là, j'ai un choix. Ou bien je me laisse emporter par mon ego et je vais dans la lutte ou la fuite. Et ça, il y a une force très grande, l'ego, hein, parce qu'il veut gagner. L'ego, lui, s'il a le sentiment de perdre, il a l'impression de disparaître.
Mm-hmm.
Alors, il veut toujours gagner, toujours. Dans une discussion à propos de deux opinions différentes, il veut que l'opinion prévale, parce que l'opinion disparaît, l'ego a l'impression de disparaître. Alors, donc, c'est une force là, très grande qui nous habite, parce que c'est aussi biologique, là, hein, on est habité par les hormones, de l'adrénaline, de l'adrénaline,
oui.
Tout ça.
Oui, oui.
Alors, et c'est là qu'arrive l'intelligence. Là, l'intelligence peut faire, première option, donc, je laisse mon ego s'exprimer. Deuxième option, je ramène mon attention dans le présent. Complètement. Ça veut même dire sur la saleté qui disparaît dans l'assiette, sur la propreté qui apparaît, sur mon souffle, sur ma respiration. C'est des choses très, très concrètes. Et là, l'hamster s'apaise. Là, je me rends compte que j'étais habité et que tout mon corps était en train de vivre une réaction associée à une menace perçue à mon ego.
Mm-hmm.
Et là, je fais même en sourire. Là, regardons ça. Mon ego qui le sent encore attaqué et qui était prêt à entrer dans la lutte ou la fuite. Et là, je peux ouvrir un espace de dialogue dans l'intelligence. Là, je peux faire, écoute, j'aimerais ça qu'on parle de ta journée. Quel genre de journée as-tu eue? Et ma conjointe a immédiatement réagi en disant « Je suis désolé, j'ai une journée fou.
Ouais, » okay.
Alors, elle aussi a réalisé qu'elle avait projeté sur moi, avec l'histoire de la goutte de savon, quelque chose qui était relié à des événements vécus pendant sa journée. Autrement dit, comme disait un de mes amis, la lettre était dirigée à la mauvaise adresse.
Oui.
Et moi, j'ai ouvert du courrier qui ne m'était pas destiné.
C'est une belle image.
Et c'est ça que l'observation du hamster permet. Alors, pour un exemple aussi banal que ça, là, imaginez la quantité d'événements au cours d'une journée.
Bien sûr.
Où ça peut survenir. Hein. C'est inouï.
Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup pour cette anecdote, enfin cette expérience de vie. Et puis, un très grand merci pour tous les partages et tout ce que tu viens de nous expliquer. Merci pour ta générosité. Je crois savoir que tu es en période d'écriture en ce moment. Est-ce que c'est ça?
Oui.
Est-ce qu'on a le droit de savoir ce que tu nous prépares?
J'aimerais pouvoir vous le dire, mais c'est encore en train de se prendre forme. Alors,
okay.
Et puis, ça change régulièrement.
Okay.
C'est encore, bien sûr, une exploration là, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça serait peut-être plus facile à la fin de l'été.
D'accord. Donc, on va être encore un petit peu patient. OK. Est-ce que
ce sera peut-être un mélange d'une partie roman avec une partie plus pensouillard. Il y aura peut-être un mélange des deux
cette fois-là. OK. Bon, bah, écoute, on va suivre ça avec attention. Est-ce que tu as d'autres dates qui sont prévues en France?
Pour le moment, non. J'interviens, oui, dans certaines entreprises, mais ça, c'est fermé, là.
D'accord. Okay.
C'est les endroits où... alors, ça, je le fais à quelques reprises d'ici à ce que je repars. Et après, je reviens probablement fin novembre. Je crois que je fais une intervention grand public à Lyon.
D'accord.
En décembre.
En décembre, d'accord.
En fin d'année, il y aura une intervention grand public. Pardonne-moi, une intervention grand public à Lyon en décembre.
D'accord.
Je ne connais pas encore la date, mais ça va être...
ça va être cet hiver en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment on peut te suivre justement pour se tenir au fait de ton actualité ou si on veut te contacter, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour te suivre?
Je suis sur Facebook, Serge Marquis auteur. Il y a aussi un site internet www.tortue.com.
OK.
Marquis.com.
OK.
Ça aussi, c'est possible de me rejoindre à travers cette adresse-là. Mais ce qui est très, très facile, c'est de taper mon nom sur Google.
OK.
Et il y a plein de choses qui apparaissent. Il y a même des conférences que j'ai données sur YouTube. On peut trouver plein de choses en faisant ça.
Écoute, ce que je ferai, c'est que je mettrai dans les notes de l'épisode les références, en tout cas les liens, pour que les gens puissent les retrouver facilement, simplement en cliquant. Et puis, encore une fois, vraiment, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ces partages. Et écoute, au plaisir de te lire à nouveau, ou en tout cas de venir peut-être te voir à une prochaine conférence. Mais vraiment, un grand merci pour tout ce que tu nous apportes.
Eh bien, je te remercie aussi, Catherine, vraiment, pour ta délicatesse, ton écoute, ta gentillesse, ta chaleur, et de m'avoir accueilli. J'apprécie énormément.
Bon,
alors,
ben,
merci
écoute,
beaucoup à toi aussi.
Je te remercie beaucoup, Serge, et puis je te dis à très bientôt.
À très bientôt. Merci, Catherine.
Rebonjour à tous. J'espère que cette rencontre avec Serge Marquis vous a plu. Et je vous propose dans cette deuxième partie de faire une synthèse des éléments évoqués avec lui et de faire un focus sur certains points importants afin que vous puissiez vous les approprier. Nous avons évoqué la notion d'ego que Serge qualifie comme étant notre discours intérieur, cette petite voix dans notre tête qui est constamment en train de juger les autres ou de nous juger nous-mêmes. Par exemple, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, c'est compliqué pour moi, je n'ai pas de chance. Pourquoi lui il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il est compétent? Bref, je suis sûre que vous pouvez trouver vous-même vos propres exemples. Ce discours, dans certains cas, nous est utile et nous conduit à avancer et à progresser. Mais dans d'autres cas, et très souvent, ces pensées nous nuisent. Elles occupent toute notre attention et ne nous conduisent nulle part, bien au contraire. Elles vont être créatrices d'émotions désagréables et de conflits. Parallèlement à cela, Serge nous a parlé de la notion de pelure identitaire. En résumé, nous nous identifions à ce que nous possédons, à ce que nous faisons, à notre métier, à ce que nous pensons ou encore à ce que nous disons, et non pas à qui nous sommes vraiment. Ce qui peut poser un problème d'identité lorsque, par exemple, nous perdons quelque chose que nous avons ou que nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce que nous avons ou de ce que nous faisons. Par exemple, sa maison, sa voiture, son travail, ses résultats dans telle ou telle situation, etc. Et notre ego, lui, est là pour protéger ses pelures identitaires car il pense que nous pouvons être menacés et nous risquons de disparaître si nos pelures sont face à une menace, un jugement ou une critique. Et le cerveau aujourd'hui ne fait plus la différence entre une menace à notre survie, une vraie, et une menace à notre ego. Il déclenche la même réaction de stress dans les deux cas. Alors pour calmer ces pensées qui nous polluent, Serge nous préconise de focaliser notre attention sur le moment présent. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à observer les pensées qui traversent notre esprit, à être dans l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, pour prendre conscience et comprendre le processus mental qui est en train de se mettre en marche en nous. L'idée est de visualiser l'orientation que prennent ces pensées. Je fais référence ici aux quatre cadrans dont Serge nous a parlé. Il nous dit que très souvent, nos pensées sont soit dans le jugement des autres, soit dans le jugement sur soi-même, soit dans le passé ou soit dans le futur. Dans ce cas-là, notre attention n'est pas dans le moment présent et il faut développer cette vigilance qui permet de ramener notre attention dans le présent et sortir de ces formes de jugement qui risquent justement de nous conduire à une réaction inappropriée et avoir des conséquences désagréables. Les principales questions à se poser dans ce cas-là sont: est-ce que je suis dans le jugement, dans un de ces quatre cadrans? Est-ce que ces pensées me sont utiles et me permettent d'avancer objectivement? Est-ce que ma vraie identité est menacée? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je suis face à une menace pour ma survie? Est-ce que mon hamster est en train de protéger mes pelures identitaires ou ma vraie identité? Est-ce que je vais disparaître? Je vous invite en réalité à trouver là ou les questions qui vous conviennent. Ce ne sont ici que des propositions. Trouvez celle qui fera écho en vous et que vous arriverez à appliquer naturellement. Pour vous approprier ces notions et ces outils, je vous invite aussi, si cela peut vous être utile, à expérimenter et à vous entraîner sur des situations simples, des situations de la vie quotidienne sans enjeux significatifs et voir déjà ce que vous observez. Vous pouvez aussi mettre à contribution une personne de votre entourage pour vous aider dans ce travail, pour vous aider dans l'étape d'observation et de prise de conscience des pensées, qui est une étape indispensable mais qui peut aussi vous sembler difficile. Dans ce cas, entourez-vous d'une personne absolument bienveillante et qui n'aura pour objectif que de vous accompagner pour vous faire toucher du doigt ce moment où votre hamster pensouillard se met en marche. Cela peut vous permettre de prendre du recul et d'avoir une vision nouvelle sur vos pensées ou sur votre situation. Je vous rappelle la phrase que Serge aime particulièrement entendre et qui est la suivante: « Je n'avais jamais vu ça comme ça ». Voilà pour ce 14e épisode. J'espère qu'il vous aura inspiré et qu'il sera utile pour vos propres vies. Je vous invite à me faire vos commentaires et vos feedbacks, soit sur iTunes et Apple Podcasts, ou sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook CB Coach, sur mon compte LinkedIn ou sur mon compte Instagram CBCoach51. Vous pouvez également me contacter et consulter les différentes formes d'accompagnement que je propose directement sur mon site internet www.cbcoach.fr. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.